Donc, voilà, je vous présente un peu le plan dans lequel on s'embarque. Je vais essayer de lire en diagonale sur le truc. Donc, on va passer rapidement sur qu'est-ce qu'un jeu de rôle de table. En fait, est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est un jeu de rôle de table? On entend parler ça, des ça dés tout à l'heure, etc. En tout cas, on va passer très rapidement.
Qui ne connaît pas?
Ouais.
C'est pas un jeu de rôle traditionnel. On n'est pas dans le roleplay nécessairement pur. Donc, papier, crayon, table, statistiques,
mathématiques. Mais peut-être qu'à la maison, il y a des gens qui ne savent pas. Donc.
C'est vrai, oui, c'est effectivement.
Ça. On va le résumer brièvement.
Ouais, mais à la maison, ils ont Wikipédia, par exemple. donc, on va passer très rapidement sur qu'est-ce qu'un jeu de rôle de table, avec une définition qui est commune un peu. On va parler encore là très rapidement de l'histoire de Donjons et Dragons, parce que ça va devenir pertinent pour le reste de notre discussion par la suite. Et ensuite, justement, comme on le suggérait à l'intérieur de notre titre, on va explorer deux séries, en fait, d'aventures qui sont un peu des franchises à l'intérieur d'une franchise, en quelque part, qui sont Tomb of Horror et Ravenloft. Ensuite, on va conclure sur un aperçu de la grille d'analyse ST432, qui a l'air bien plus épeurante en chiffres qu'en nom, et évidemment une conclusion qui va conclure.
Voilà. Assembler tout ça.
Espérons qu'on va conclure.
Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'un jeu de rôle sur table? Ben, je vais prendre la définition qui est en anglais là. J'imagine que tout le monde peut la comprendre. Donc, TRPGs, qui est une abréviation de Tabletop Role-Playing Games, can be defined as a type of game/game system. That involves collaboration between small group of player and a game master through a face-to-face social activity with the purpose of creating a narrative experience. Donc, c'est un style de jeu, en fait, un peu comme les gens qui se trouvent dans cette photo-là, où on a le maître de jeu qui est caché derrière un écran habituellement, là, dépendamment des styles, mais traditionnellement, disons, et ensuite qui va un peu raconter la base de l'histoire à tous les autres joueurs qui interprètent un peu les protagonistes de l'histoire. Et tout ça est contrôlé par un système, en fait, comme le propose le début de la définition. Donc, comme on le suggérait tout à l'heure, on ne peut pas décider de gagner constamment ou de réussir constamment. On lance des dés, on calcule des choses pour savoir si nos actions sont réussies ou non. Et là, l'aventure va continuer en fonction de ça. Tu peux passer à la prochaine. Donc, Donjons et Dragons, justement, qui est probablement le jeu de rôle archétype, d'une certaine façon, qui a un peu créé le genre au complet, qui est le premier qui a été créé, qui ressemblait à ce qu'encore aujourd'hui, on traite de jeu de rôle, d'une certaine façon, même si depuis, la forme a tellement changé qu'on a de la misère à voir vraiment est-ce que c'est tous des jeux de rôle, etc. Mais Donjons & Dragons est inspiré des Wargames. À l'origine, en fait, les gens qui ont créé Donjons & Dragons étaient des Wargamers. Le Wargame, c'est un peu ce qu'on voit dans la photo-là. Donc, ça ressemble un peu à, si vous connaissez Warhammer aujourd'hui, là, ou ce genre d'immense table sur laquelle on va déplacer des armées, où il va y avoir de jolis petits arbres, etc. Donc, une espèce de terrain pour avoir une vision de ce qui est en train de se passer. Et là, à l'origine, évidemment, on contrôlait beaucoup plus qu'un personnage. Donc, il y avait des armées entières. Oui, effectivement. C'était des simulations historiques qui sont devenues éventuellement de plus en plus personnelles, disons. Et justement, éventuellement, il y a eu un rôle d'arbitre neutre qui est apparu dans ces pratiques-là parce que les règles devenaient trop compliquées et les gens prenaient ça au sérieux, là, voulaient gagner. Donc, il y avait des gens qui étaient un peu l'arbitre à l'extérieur, et cet arbitre-là, éventuellement, est devenu un peu la personne qui choisissait ce qui se passait à l'intérieur de l'aventure ou de la campagne de Wargame. Et là, on a voulu éventuellement, OK, on va le faire dans un souterrain cette fois-là, mais là, on ne peut pas créer un souterrain, on a juste une table, donc là, ça ne marche pas. Donc, on va vous le décrire, puis là, on va rouler les dés comme d'habitude, on va déplacer les armées, mais dans nos têtes. Là, on avait de moins en moins de support visuel. Il y a eu, éventuellement, avec la sortie du Seigneur des Anneaux en version poche aux États-Unis pendant l'époque des hippies, etc., le fantasy est devenu super important dans l'imaginaire collectif. Les gens voulaient avoir un Gandalf ou ou un Aragorn à l'intérieur de leur wargame. Et là, le fantasy a commencé à apparaître. On lançait des boules de feu, on se battait contre des gros monstres sortis de littérature. Et là, éventuellement, quand tous ces problèmes-là se sont ramassés en même temps, en fait, au même endroit, entre Dave Arneson et Gary Gygax, a été créé un peu la base de ce qu'est Donjons & Dragons. Et malgré le fait que ça fait maintenant plus de 40 ans et que tout a évolué à l'intérieur, y compris le système, la façon qu'on joue, les attentes qu'on a, ben on le reconnaît encore aujourd'hui. C'est un peu la même chose, la façon dont les règles sont structurées, dont l'histoire est montée, la collaboration entre le maître de jeu et les joueurs pour créer l'histoire. Tu peux passer à la prochaine. Donc, dans les prochaines slides que mes collègues vont prendre de façon sûrement brillante, on va regarder deux séries de scénarios. En fait, l'évolution, c'est des scénarios qui ont commencé au début du jeu de rôle, donc soit fin des années 70, début des années 80, et qui ont évolué. Donc, avec l'évolution du jeu, on a refait ces mêmes aventures-là, de façon de plus, en fait, adaptée au nouveau système de jeu, aux attentes de la communauté, etc. Et on va les regarder un peu selon les composantes du jeu de rôle de Kaira. Donc, on va parler de l'univers, du monde fictionnel, des systèmes de règles, la façon dont le système de règles de Donjons & Dragons a influencé comment les aventures sont gérées. Du scénario du point de vue interactif, donc c'est quoi l'aventure ou ce qu'on appelait les modules, puisque à l'origine, évidemment, on ne voyait pas ça comme des aventures en tant que telles, on voyait ça comme un module que tu pouvais placer à l'intérieur de ton histoire que tu étais en train de créer. C'est un peu un aide pour le maître de jeu. Et finalement, des personnages, autant les personnages que les joueurs vont interpréter au niveau des règles, etc., et de la fiction, que les personnages qui font partie de l'histoire, parce que à l'intérieur des scénarios, il y a toujours des personnages particulièrement importants qui vont prendre la place, encore là, d'un niveau narratif et d'un niveau formel. Tu peux passer à la prochaine. Donc, en gros, pour vous résumer l'histoire, tout ça a commencé dans le temps du premier Advanced Dungeons & Dragons, où on était dans un monde où les gens commençaient à comprendre le jeu de rôle, et là, c'était un engouement de façon générale parce que c'était un jeu qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait avec, en fait. Là, on pouvait introduire des règles, les retirer, etc. Le fait que TSR, qui était la compagnie qui publiait ça, ben, c'était des espèces de brochets là, faites à dactylo, un peu dégueulasses. Donc, tout le monde se disait, ben, moi aussi, je suis capable de faire quelque chose qui est sûrement de meilleure qualité que ça. Ça a l'air de n'importe quoi. Les gens rajoutaient des règles, etc. Quand Advanced Dungeons & Dragons est sorti, il y a eu cette volonté-là d'imposer, en fait, une façon de jouer sur les joueurs. Mais on était encore dans la mentalité, en fait, on était encore dans l'époque où les wargamers étaient vastement majoritaires dans la communauté. Donc, il y avait encore cet élément de compétition, de mettre les joueurs au défi, etc. Là, on passe presque 40 ans plus tard, sinon plus que 40 ans plus tard, entre 78 et puis 2014 à peu près. Donc là, on est vraiment rendu avec des communautés de joueurs, avec évidemment les communautés Internet, etc., où on demande l'avis, on utilise des versions alpha, donnez-nous notre avis, est-ce que c'est le fun de faire telle chose à l'intérieur, où on a passé d'une tentative de contrôler ce qui est en train de se passer vers une tentative plus d'inspirer les maîtres de jeu, slash les arbitres et évidemment les joueurs par la suite. Et on est dans des philosophies un peu d'Adventure Path, donc des séries d'aventures qui sont liées ensemble, donc vraiment dans le sériel, là, un peu une série télé dans le fond, où on fait une aventure pour après ça emboîter dans une prochaine aventure, pour une prochaine aventure, donc de créer les campagnes en entier. En fait, on est parti des modules qui étaient vraiment une partie de la campagne qui pouvait avoir une vingtaine de pages à peu près en moyenne, et là on est arrivé à des livres entiers, des manuels qui font des fois au plus que 100 pages, 150, etc. 1000. Voilà. Donc, dans le fond, on va utiliser un peu ces thèmes historiques-là comme ligne directrice un peu de loin. Évidemment, on le fait en réfléchissant à ça, mais avec beaucoup d'exemples. Donc, à la fin, on va revenir un peu sur un tableau semblable à celui-là pour en discuter. Mais justement, avant, pour se lancer dans le cœur du sujet, on va explorer, dans le fond, deux des franchises de modules qui sont ou d'aventures, je ne sais pas comment on veut l'appeler, qui sont les plus historiquement significatives parce qu'ils sont un peu deux extrêmes du continuum. On a trouvé d'ailleurs dans Dungeon Magazine qui est un magazine qui est dédié aux aventures principalement de jeux de rôle ou spécifiquement de Donjons Dragons, en fait. Ils ont fait un classement et les deux aventures, justement, étaient numéro 2 et numéro 3, donc parmi les meilleures. La numéro 1, c'est une affaire d'elfes noirs, là, c'était pas grave. mais ces deux-là, en fait, sont aux deux extrêmes du continuum, ouais. C'est-à-dire que Tomb of Horror est vraiment un peu l'archétype de ce qu'on voulait faire en 1978, donc quelque chose de compétitif, de très difficile, où le maître de jeu était presque contre les joueurs directement, mais où l'aventure te mettait dans une petite boîte en quelque part pour te transformer en machine à tuer des aventuriers en tant que maître de jeu, alors que Ravenloft était un peu en avant sur son temps d'une certaine façon. Donc, d'un point de vue expérimental, narratif, où on avait une complexité narrative, en fait, bien supérieure. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mes collègues.
Ouais, tu as parlé de Tomb of Horror, donc ça ressemble à ça. Alors, analysons-le. Alors, on peut déjà voir qu'il y a un souci visuel qui est peut-être plus beau avec les années. Ça, même à l'écriture, ça va paraître. Je me suis tapé les deux pour me rendre compte que c'était pas mal mieux écrit dans le deuxième. On a vraiment ici affaire à une conversion parce que c'est à peu près le même texte qu'on a dans les deux. C'est assez intégral. On va avoir les mêmes zones, les mêmes salles. Dans le deuxième, il sort d'un volume là, qui a pris plusieurs donjons classiques là, qu'il y a eu dans le temps, et Tomb of Horrors en fait partie. Pour comparer ces deux trucs-là, il faut absolument regarder ça avec les règles de base. Donc, Donjons Dragons, c'est aussi trois manuels qui te sortent. Donc, tu as un pavé où est-ce que tu as toutes les règles qui décrit comment que le jeu va fonctionner, que ce soit quand tu vas attaquer, quel dé tes armes font... et tout ça. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de différences, malgré que l'esthétique est quand même restée la même. Moi, j'en ai pris trois qui servent à expliquer qu'est-ce qui va nous attendre, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce que ces règles-là vont changer dans le même texte qu'il y a eu en 78 et le texte en 2014. Donc, rapidement, un round, c'est généralement à chacun son tour de jouer. Tu as un round, qu'est-ce que tu fais dedans? Généralement, tu avances et tu tapes l'ennemi devant toi ou tu fais une magie. Alors que c'était une minute avant, et maintenant c'est rendu plus, c'est 6 secondes, là, ça rentre au poste. Même qu'on se rend compte que tu vas avoir passé peut-être une heure à faire un combat dans la vraie vie, tandis que dans le jeu, il s'est passé 36 secondes. Là, les points de vie, même truc, ça c'est beaucoup plus permissif aujourd'hui. Avant, tu arrivais à zéro, tu étais mort, c'était fini, ton âme était déjà rendu vers ton dieu. Tandis que maintenant, tu arrives à zéro, tu peux juste avoir un petit soin, puis hop, tu reviens à un, puis tu peux continuer à te battre. Et le repos, ça aussi, ça peut faire sourire là, ceux qui ne connaissaient pas comment ça se passait jadis, mais c'était plus de la simulation. Il fallait que tu attendes une journée pour récupérer un seul point de vie. Fait que si tu étais magané et tu avais épuisé tes solutions magiques, il fallait que tu attendes sur place et tu campes. Alors que maintenant, dans la cinquième édition, tu fais ce qu'on appelle un long rest. Ça fait penser là, au in là, dans les jeux vidéo, là, où est-ce que tu payes 10$ et tu reviens flambant neuf le lendemain matin. Tout est guéri partout.
Parce que les points de vie, on s'entend qu'on en a habituellement quoi, entre, mettons, 8-9 quand tu commences, ouais. Parce que tu es un combattant. Exact. Et ça peut monter jusqu'à 100 quelques. Donc, en 1978, tu pouvais, OK, je suis presque mort, fait que l'année prochaine, on va camper ici. et puis, on va recommencer par la suite. Tandis que maintenant, au bout de 8 heures, c'est beau, moi puis mes 100 points de vie, on est prêt à partir.
C'est comme si on était passé des blessures réelles à la vivacité de la personne, ouais. Pas nécessairement son intégrité physique.
Danny en a parlé un peu. Le scénario, comment il fonctionne, c'est qu'on a l'impression que c'est une place où est-ce que tu envoies ton personnage se faire tuer. Premièrement, juste trouver la tombe, tu lis dans le scénario, il faut que tu fasses, faut que tu y ailles avec une perche de 10 pieds, là, sonder le sol pour essayer de trouver l'entrée. Et en plus, qu'il y en a trois. Donc, si tu tombes sur une entrée, tu arrives dans la première, il y a deux portes au bout, bon, j'ouvre les portes. Il y a des roches qui tombent dessus, et si tu n'es pas chanceux avec les dés, ton personnage est peut-être déjà mort rendu là. Puis l'autre sortie, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, c'est une roche qui arrive en arrière de toi. Puis là, c'est écrit dans la première version que le maître de jeu compte dans sa tête 10. 9, 8, 7. Puis là, il a fait peut-être un bruit, là, ça grouille, qu'est-ce que vous faites? Puis là, si il y a quelqu'un qui n'a pas sorti, ben, il est prisonnier là, puis ton personnage est fini, faut que tu en fasses un autre, ou tu essaies de trouver une façon de sortir, et le scénario te dit pas comment sortir. Donc on sait pas si le maître de jeu peut être permissif, ou ben, ça dit que t'es pogné là. Fait que ça a été une belle soirée pour lui. Sinon, on pourrait passer salle par salle, là. Comme on peut voir, la carte, là, il prend même les mêmes chiffres. Le premier corridor, là, c'est spoiler, mais je pense que ça dérange pas, parce qu'en bout de ligne, je vais vous conseiller de jamais faire ce donjon-là, parce que la Tomb of Horror prend quand même un nouveau sens aujourd'hui en termes de game design. Là, il y a une face dans le fond, là, par exemple, puis là, elle a la bouche ouverte, il y a un cercle noir, puis là, les joueurs sont devant ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, tu y vas par essai-erreur. C'est la taille d'un humain pourrait passer dedans. Bon, ben, je vais essayer de rentrer dedans. Puis là, ben, whoop, ton ami n'est plus là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je sais pas, je vais aller le rejoindre. Puis là, si toutes les trois embarquent, ben, tu te rends compte que c'est une sphère d'annihilation qu'il y avait dans la bouche du monstre. Puis vous êtes simplement évaporé. La partie est terminée. Fait que, c'est, on peut déjà imaginer là, le climat social autour de la table. Puis bon, c'est ça. Il y a plusieurs exemples comme ça, là, dans le sens que tu peux être téléporté dans une salle, tu as trois leviers devant toi, tes essais, toutes les combinaisons, ça marche pas. Finalement, il faut juste que tu baisses les trois en même temps. Il y a une trappe qui ouvre, puis tu tombes sur des pics. Puis voilà. Puis si tu mettais les trois par en haut, oh, là, il y a un plafond qui sort. Puis là, tu peux retourner chercher tes amis. Là. Fait qu'on voit un petit peu l'esprit, puis c'est pas mal ça quasiment partout. Là. Honnêtement, il y a du plaisir à lire ce scénario-là. Tu souris quand même pas mal. Je pense que l'auteur le savait, que ça allait virer comme ça. Ça a été conçu pour. Donc, il dit même, je vous conseille de ne pas prendre votre personnage que vous êtes habitué de prendre. Prenez plutôt des personnages nouveaux, parce que ça se trouve, vous allez être attaché avec, vous allez être fâché. Mais en même temps, il conseille aussi d'avoir une bonne chimie entre les personnages. Fait que là, il y a un contre-discours. Là. C'est comme, on est habitué d'être ensemble, on va être efficace, mais c'est pas cette équipe-là qu'il faut prendre parce qu'on va crever. Fait qu'on est mieux de prendre une équipe qui se fait à la volée. Fait que déjà là, c'est assez étrange, mais ça envoie le message que peut-être qu'il y a de la rejouabilité aussi. Là. Tu pars avec quatre personnages, ils sont tous morts, t'en prends quatre nouveaux, tu continues plus loin. Fait que là, c'est pas clair hein, de comment qu'on fait pour passer à travers de ce donjon-là. Mais j'imagine que c'est le maître de jeu qui doit comme dealer avec ça. Là. T'as le texte, puis après ça, bonne chance.
Juste préparer un paquet de personnages en backup pour jouer à Donjon Dragon, c'est un peu bizarre aussi. C'est comme pas le genre de jeu de rôle-là. On n'est pas à jouer.
D'habitude, on les joue pendant
Lovecraftien, on sait qu'on va virer fou. Fait que t'as son cousin qui attend dans le char au cas où. Là. Mais pour ça, en faire 20. J'ai un team de 20, bon, on part 4-5, mais il y en a 4-5 de près, ça va bien aller. Là.
Puis ils viennent tous avec un équipement, là, avec des épées plus 4.
Parce que ça, c'est la table des personnages suggérés, là, en fait. Ouais. Ils vous disent, fais-toi donc 4 persos pour rentrer, parce qu'ils vont mourir, anyway. Tu vas pas l'envoyer dans la bouche du monde.
C'est là, on est tenté à l'appeler Bob 2 puis Bob 3, là, parce que, tu sais, on fait pas une histoire à chacun d'eux, là. Ici, on voit Gary Gygax, qui est l'auteur de cette œuvre d'art, qui est aussi l'auteur du jeu. Donc là, je l'ai mis jeune, mais vieux, parce que il y a quand même eu de la nostalgie envers ce truc-là. Donc la citation qui dit avant que je publie le scénario, je le traînais avec moi dans une mallette. Tout ça pour m'attendre à ce qu'il y ait des fans qui me disent comme « Check, moi, là, mon bonhomme, il est vraiment fort, puis il est capable de tuer n'importe quel bobite puis donjon. » Fait que là, lui, il sortait ça de sa mallette, puis fait comme « Tiens, have fun. » Là, c'est écrit, je l'ai mis en gras, là, il ricanait de façon « evil hein, » à penser à ça. Donc, il y a une volonté de l'auteur d'avoir vraiment fait un donjon là, qui était... pour un petit peu, il y a une espèce d'éditorial en arrière. Hein. C'est que pour lui, Donjon Dragon, c'est pas juste une histoire d'être le plus fort possible, mais c'est aussi de penser comme faux aux pièges. Sauf que malheureusement, la plupart des pièges sont assez try and error ou die and retry, là, pour prendre le langage du jeu vidéo. Là. Mais finalement, il y a quand même des joueurs qui ont apprécié l'expérience, j'imagine. L'histoire ne dit pas si le maître de jeu avait mis ça plus simple ou non. Mais finalement, la leçon qu'il retire, c'est que même si tu es fait... terriblement difficile, ben, il y a quand même des personnes. Puis là, c'est important de voir que c'est expert players. Donc, c'est le joueur qui est bon à jouer qui va réussir à faire la tombe. C'est pas le personnage qui a des bonnes capacités. Ils ont refait aussi le Tomb of Horrors. Là, il y a quand même une espèce de bel héritage avec le personnage là, qui a construit ce donjon-là, qui s'appelle Acererac, qui est d'ailleurs là, le personnage qui est sur la couverture du dernier livre de Manuel du Maître. Moi, je pense que c'est une belle métaphore aussi pour expliquer que ça peut être ça, le rôle du maître de jeu, c'est-à-dire de créer un environnement où est-ce que les joueurs vont avoir à naviguer dedans, puis aller se casser les dents, disons. Malgré que il a fallu comme réajuster le personnage avec l'évolution du jeu, parce que je pense que c'est plus vrai aujourd'hui qu'on a le goût de juste avancer puis de crever. C'est pour ça que j'arrive avec lui aussi qui parle d'une nouvelle auditoire, en fait. C'est que les années passent, puis là, on s'est rendu compte que à Acererac, on l'a mis un petit peu partout, puis c'était même rendu difficile. Dans une aventure, il faisait ci, dans l'autre, il était là, il était dans un autre univers. Il y a même rendu là, il y a comme des inconsistances avec le personnage lui-même. Fait que Donjons & Dragons n'a aucun remords à reprendre toute la connaissance qu'il y a eu dessus, n'enlever, prendre ce qui va fitter aujourd'hui. Ça n'a pas besoin là, d'être canon puis de respecter le truc. Là. C'est, de toute façon, les maîtres de jeu l'adaptent déjà. Donc, quand ils refont une nouvelle mouture d'un scénario, ils peuvent changer des trucs sans remords. On le voit ici, là, déjà, il y a comme. Là, on peut parler peut-être de reboot ou on peut retourner là, dans une autre aventure avec la thématique de la tombe des horreurs. Mais actuellement, ce qu'on a, c'est The Tomb of Annihilation. Donc, on reprend encore le personnage, mais là, c'est une réimagination. On va prendre l'atmosphère qu'on voulait véhiculer jadis. On fait un module comme Danny l'expliquait au début, là, avec ce fameux Adventurer's Path. Puis là, on va pouvoir être capable de guider notre personnage là-dedans, au goût du jour. Là, maintenant, là, c'est pas mal moins terrible là, comme scénario, je vous l'assure. Et puis finalement, on serait déjà à penser qu'il est révolu l'ère où est-ce qu'on jouait pour avoir un challenge puis réussir un donjon vraiment difficile. Mais en même temps, on tombe sur un article comme ça de Dragon Plus, l'application, qui dit que lors d'une convention récente, les gens ont ressorti Tomb of Horrors puis ils ont réessayé de le jouer comme dans le temps. Pour essayer de... ou peut-être qu'il était modifié, j'ai jamais mis la main là, sur le vrai scénario qu'il y a eu. Mais bon, l'idée, c'est qu'il y a peut-être une évolution de la façon qu'on joue, mais il y a aussi des façons parallèles de jouer. Donc, il va toujours avoir des joueurs qui vont être intéressés quand même à faire des dungeon crawls de cette sorte-là. Puis il y en a d'autres qui vont être plus... ils vont avoir le goût de jouer au goût du jour. Donc, le jeu de rôle sur table, on dit toujours que c'est coopératif, c'est pas de la compétition, mais apparemment, ça peut aussi être d'une façon compétitive. Fait qu'on va aller dans un autre registre maintenant avec Ravenloft. Donc,
vas-y. Tout à fait. Même si l'aspect compétitif est présent dans certaines moutures, ce module-là, qui était un module, on le voit ici, l'original ici, donc I6, qui était bon 30 quelques pages, pas tout à fait 40, a été adapté au cours des années. Donc, on a la version de 2017 ici. Donc, on voit que le look du vampire a sensiblement changé. On va parler un peu du personnage tantôt. L'étendue aussi, tant de l'espace sur le plan formel que des expériences qu'on propose aussi, est vraiment sensiblement variée. Donc, conçu par Tracy Plora Hickman en 78, Ravenloft, au départ, c'est un univers qui rappelle beaucoup de Dracula. On le voit juste avec le look. Et il y a un petit peu du fantôme de l'opéra aussi. Notre vampire est un organiste hors pair. Il met de l'ambiance quand on arrive dans le château. Ça a été récupéré aussi par la suite. Mais entre ces deux moutures-là, The Curse of Strahd, qui a un nom assez spécifique, comme une histoire comme telle, c'est vraiment aussi une réimagination d'une aventure plus développée qui a été faite après le module original. Comme Dan disait, un module, c'est vraiment un outil qu'on utilise. Donc, il y a un scénario, il y a des cartes, des règles, du matériel qu'on peut utiliser vraiment pour moduler notre univers en soi. Donc, il y a eu des conversions. Donc, House of Strahd, qui fait référence à la Curse of Strahd, évidemment, qui a suivi quelques années plus tard, beaucoup plus étendue. Le nombre de pages a augmenté en conséquence au-dessus des centaines, effectivement. Et les règles ont changé aussi. On est passé à une seconde édition. Et les règles ont vraiment changé la façon de jouer aussi dans celui-là, étant donné que c'est beaucoup plus statistique. On régit beaucoup plus. Donc, la mortalité a varié. L'édition Silver est une adaptation du scénario original, mais avec les nouvelles règles. Mais on est vraiment resté avec le même récit comme tel, qui est une scénarisation interactive, mais on est retourner au parcours original. Il y a eu par la suite d'autres imaginations, mais ce ne sont plus les mêmes designers. Et les équipes sont devenues très, très grosses. Les budgets ont changé dans les compagnies de jeux vidéo, des jeux de plateau, comme les jeux de vidéo. Il peut y avoir des dizaines d'intervenants maintenant. Juste le nouveau qu'on a vu au début, il y a au moins une dizaine d'illustrateurs. Il y a 3 cartographes qui ont fait le travail aussi. C'était peut-être l'équipe au complet pour les premières éditions avant une quinzaine de personnes. Donc, à la 3e édition, il y a eu des réimaginations. La 4e en a aussi. Il y a même d'autres systèmes qui ont été employés que ceux purement donjons et dragonesques. L'univers, donc on va suivre les mêmes patterns. Je rentre dans les détails de l'analyse d'un design narratif, en fait. Donc, l'outil d'analyse que j'ai développé dans le cadre de ma thèse, je l'ai appliqué pour essayer d'analyser un médium qui est autre que le jeu vidéo. Donc, on va voir que c'est tout à fait possible. Je trouve ça très intéressant comme exercice. Donc, si on regarde les espaces formels, si on a fait la diégèse, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une cartographie a seulement quelques pages. On a vraiment récupéré tout ça par la suite dans des cartes isométriques que je vais vous montrer sur la prochaine fiche. Et on a développé ça de façon exponentielle lors de la 5e édition. Donc là, on a vraiment 50 cartes, des villages, des repères, des maisons. C'est vraiment du beau travail de dessin technique, en fait. Il y a beaucoup de budget qui a été mis de ce côté-là. Les contextes aussi, donc toutes les expériences qu'on peut faire vivre, les arènes ont vraiment été récupérées dans les éditions passées pour en avoir un plus grand nombre. Et on a aussi intégré plus de culture. Je vais mettre des petits indices aussi au cours des prochaines fiches. Donc, le côté gypsy, le tarot, la littérature, la culture slave a été intégrée aussi à une histoire qui est à la base celle de The Stalker, très Dracula type. Là. On a vraiment donné plus de chair à l'univers fictionnel. Avant, c'était très isolé, mais par la suite, on l'a vraiment établi comme un cadre de campagne, qui est en fait un monde fictionnel vraiment large, avec plein d'éléments qu'on peut prendre pour faire plusieurs campagnes différentes. Donc, c'est vraiment un gros, gros, gros bac à sable qu'on peut prendre par bout. Et maintenant, c'est devenu encore plus ambigu, parce qu'on n'établit pas exactement dans quel univers il est. Donc, le maître peut décider de l'intégrer au sien, on ne l'a pas fixé dans la fiction comme telle. Et les existants, donc ce qui peuple, donc les personnages ou toutes les listes, des props, c'est vraiment une logique encyclopédique, mais il y en a aussi, on a découplé tout ça également. Donc beaucoup d'objets, évidemment, qui sont nécessaires, il y a des appendices pour ça, des annexes, il y a des objets magiques qui sont nécessaires pour réussir la quête comme telle. En gros, on erre pour récupérer tout ça, c'est un peu entre les mains du maître, et évidemment, on va confronter Strahd, le vampire. On a éventuellement raffiné aussi la présentation, les lettres sont vraiment comme c'était écrit à la main. On a donné un bon réalisme. Les monstres aussi, les opposants, se sont vraiment diversifiés. À la base, il y en a 3 types. Donc, on fait le tour assez vite. On erre pendant des heures et des heures. Puis, il y a juste des squelettes, des zombies, puis il y a des araignées. Là. On fait le tour. Donc, 6 types de morts vivants, plus des variations, plus plein de créatures vivantes qui meublent l'univers. Et on a référé tout ça à des guides externes. Donc, ça, on est dans la logique Advanced Dungeons & Dragons. Donc, il y a un exemple dans le bas. Si vous avez besoin d'avoir accès à un sort, ben, allez voir le livre approprié. Si vous avez besoin d'un objet magique, allez voir le livre approprié. Donc, on a suivi cette logique-là par la suite. Donc, ça se complexifie. Et il y a vraiment eu un héritage très clair du côté de l'utilisation des cartes. Dans le milieu, ce n'était pas le cas, mais récemment, on est revenu plus proche des bases, justement parce que les auteurs originaux étaient des consultants. Donc, on sent vraiment le désir de rester à la base. On voit que c'est du Photoshop, du sketch original. Moi, je trouve ça très, très drôle. C'est vraiment identique. Et je donne un petit exemple ici. La petite maison qui marche ici, les fans de prop. Là, donc, c'est pas Baba Yaga, il y a Baba Yaliza. Donc, c'est vraiment le même mythe. Il y en a plusieurs comme ça, subtils, qui ont été intégrés dans un univers très, très, très riche. Vous donner une idée de la grandeur, de l'extension des espaces formels expérientiels, donc pour les arènes de jeu. Cette carte-là ici, c'est vraiment ce qu'on peut voir ici. Donc, le monde est vraiment gigantesque. On a fait plein de villages, de manoirs qu'on peut visiter. Donc, ça s'est vraiment décuplé. Et la logique du jeu va changer aussi. À la place de foncer pour aller rejoindre M. Strahd, ben là, on peut errer autour. Donc, ça change un peu. Les règles nous encourage à explorer pour devenir plus cultivé, puissant. Donc, le look déjà change beaucoup. Notre Strahd, la 5e édition, on l'a beaucoup plus cultivé. Aussi, il y a eu des plantes comme ça, il était plus ambigu sur sa sexualité, mais encore là, c'est un vampire, alors c'est pas très, très important. Ses objectifs aussi ont beaucoup changé. Donc, le rôle comme tel, à la base, il devait être mystérieux. Mais il était très mystérieux, il y avait une suite. Donc, on le gérait un peu comme un personnage joueur, parce que ses statistiques sont vraiment très complexes, comme celles de notre personnage à nous-mêmes. Et c'est un peu un défi du maître de jouer ce personnage-là en parallèle, qui joue un peu avec les aventuriers comme si c'était des souris, et lui, c'est un chat. Il n'est pas là pour nous tuer, puis c'est tout le temps répété, d'ailleurs, même à la deuxième édition, parce que là, avec les règles plus très précises, vraiment basées sur l'action, les grilles de combat aussi se sont raffinées, donc très pragmatiques, on rappelle qu'il peut se déplacer un peu partout, qu'il ne veut pas tuer les joueurs, ce genre de choses, parce que son arsenal est tellement rendu intense, ses statistiques ont été aussi augmentées. Donc, le maître pourrait facilement décimer ses joueurs, mais ce n'est pas ça le but, évidemment, parce que c'est vraiment très asymétrique. Donc, son rôle comme maître de jeu, d'arbitre, doit aussi être pris. Celui de narrateur, en même temps, doit être vraiment pris en compte, parce que s'il reste juste dans les règles, ça va devenir compliqué. Alors, du côté fictionnel, l'estrade plus récent, vraiment des objectifs qui sont à plus long terme, ce qui va aussi avec l'univers un peu plus étendu. Par exemple, au lieu de construire un objet précis pour gagner en puissance, juste remplacer un aventurier pour se pousser, il veut vraiment vampiriser quelqu'un, donc avoir quelqu'un pour l'accompagner dans l'éternité. Il veut y avoir un chasseur de vampires assez établi dans la région depuis longtemps, c'est une vieille arme, mais il veut le découvrir, donc utilise les aventurier pour d'informations, ce genre de choses, mais c'est pas du tout la même mentalité de un peu de prédateur, et là, c'est plus un observateur immortel. Et donc, pour les règles, on a vraiment, en changeant juste le nombre de joueurs qu'on conseille pour faire l'expérience, on sent que la compétition vraiment embarquée avec la deuxième édition. On sentait que c'était plus un côté multijoueur jeu de société, un peu pour vendre le produit qui était quand même assez innovateur à l'époque. Lors de la deuxième, au lieu de vanter un groupe varié, ce qu'on voit dans la première citation, on dit, par exemple... une menace pour le groupe d'aventuriers le plus brave. Attention, ça se peut que votre groupe soit complètement annihilé dans cette aventure. T'sais, c'est vraiment de la bonne pub. Puis il y a beaucoup de problèmes aussi qui sont rajoutés, comme les chauves-souris qui étaient tout le temps présentes un peu. Là, les magiciens, s'il y en a autour, vont avoir de la difficulté. Donc, on a vraiment mis des bâtons dans les roues des joueurs. Et dans le cinquième, on est dans une logique plus de monde ouvert, comme les jeux vidéo contemporains, qu'on donne souvent cette saveur-là. Donc, on veut tirer l'expérience. Et on a aussi des transcriptions du modèle de jeu de rôle typique par le côté narratif, le personnage déjà à la base de Strad très développé, mais on a aussi mis des règles supplémentaires, comme un jeu de cartes. Donc l'esthétique des cartes a toujours été présente. Dans la première, c'était comme des espèces d'énigmes, on lit ça, on donne ça aux joueurs, il y a des liens à en tirer qui sont faits par le maître de jeu, qui donnent certains bonus, donc c'est comme un sort supplémentaire, une espèce d'attribut. Et le nom a changé, donc le côté... Gipsy a été plus mis de l'avant. Et dans la dernière mouture, on se rapproche vraiment du tarot dans la lecture des cartes comme telles. On peut acheter les cartes à part, évidemment, parce qu'on marchandise le tout. Et on s'est vraiment se rapproché d'éléments culturels un peu plus raffinés. Tout le temps du scénario, on a vraiment formalisé les choses de façon différente. Donc, au début, c'était très scripté, spécifié. Donc là, il y a un brouillard magique. Quand vous le passez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il y a une lettre qui vous arrive. Vous traversez un portail. Il se ferme par magie. Vous êtes pogné là. Ah, OK, c'est bon. D'accord. Il y a des patterns aussi qui ont été fixés par la suite. Donc, c'est vraiment... plus progressif, dramatique, on y va par étapes. On administre beaucoup les choses comme la température. Au lieu de dire à tel moment, là, il pleut, c'est dramatique, il y a de l'orgue dans le château. Là, on roule la table, puis il y a peut-être de la pluie, des nuages. Ça change le jour, la nuit. C'est vraiment très systémique, là. C'est assez particulier. Et à la cinquième, on a un peu relâché des choses, sauf qu'on sent qu'il y a des chapitres. Donc, si on suit les chapitres, on suit l'histoire, mais ceux du centre ne sont pas nécessaires. Strad est aussi le climax de l'histoire, mais il y a un épilogue par la suite, puis on peut jouer d'autres choses, régler les problèmes. Donc, c'est comme un mode New Game Plus dans les jeux vidéo contemporains, en fait. Donc, on sent l'héritage. Et sur le plan systémique, comment que le temps s'automatise ou qu'on suggère au maître de le gérer, c'était pas compliqué. Quand Strad meurt, on finit la partie à base, puis conclut ça, ben, félicitations. À tous les jours, il y avait des rapports d'activité aux joueurs, alors que par la suite, ça a changé. Même s'il y a les mêmes tactiques, stratégies, on rappelle les trucs pour bien jouer Strad, justement, pour peut-être pas le rappeler de ne pas annihiler le groupe de joueurs. Faut bien gérer les heures, il y a des rencontres tout le temps, toutes les trois tours, tu brasses un dé si tu rencontres des choses, c'est assez systémique. Et à la cinquième édition, on est dans une scénarisation beaucoup plus ouverte. Donc, on commence avec un chapitre qui illustre tous les objectifs généraux de l'antagoniste. On formule ça au nom de niveau, et c'est ce qui fait qu'on peut se promener d'une zone à l'autre ou que le maître suggère ce déplacement-là, étant donné que tout est un peu ajusté de ce côté-là. Et on gagne des niveaux automatiquement, certains villes importants, des rituels, ce genre de choses qui n'étaient pas présentes au début. Donc, on a vraiment étendu aussi la fiction. Donc, pour arriver à des résultats comme ça, que je pourrais vraiment en faire encore plus, j'ai souvent un modèle, en fait, qui est fait pour appliquer sur les jeux. Mais si on prend juste une partie, on peut analyser n'importe quelle fiction. Donc, les espaces, tant les existants qu'est le peuple, on va dans des détails. Donc, on peut vraiment aller chercher beaucoup de ressources et d'éléments. Donc, vous avez des questions, on va en reparler, mais ça fonctionne vraiment bien pour un jeu et pour quelque chose de plus traditionnel, ça fonctionne bien aussi. Éventuellement, faire ça avec des mondes fictionnels de romans, ça serait très chouette. Donc, dans les détails, il y a plein d'éléments. Donc, travail en cours, si vous avez des questions, je demeure disponible. Et pour lier ça ensemble.
Donc, on va reprendre, en fond, notre espèce de grille de l'origine, parce qu'il y a plein d'informations qui vous a été envoyées. Donc, dans le fond, on est parti, dans les années 70, d'une philosophie qui était très contrôlée, le joueur. On a passé vers la cinquième édition d'un point de vue plus inspiré, le joueur, d'une certaine façon. Dans les univers, on le voit, en fait, du côté de Tomb of Horror, où, à l'origine, on était dans un monde très précis, où, qui, en fait, tout se fitait avec la carte, etc. Tandis qu'aujourd'hui, on est plus dans un modèle de tu peux intégrer cette affaire-là dans n'importe quelle campagne, etc. Ça peut être dans n'importe quel monde, selon ce que tu es confortable avec, par exemple. Au niveau du système de règles, on a pris une certaine tangente qui était très précise. Qu'est-ce que ça va faire d'avoir des chauves-souris, par exemple, autour de tes magiciens, tandis qu'aujourd'hui, ben, on a comme un peu voici la situation, et puis les joueurs vont pouvoir s'arranger, puis tu peux le modifier un peu comme tu veux, faire des bouts même dans les scénarios que t'es pas obligé de faire d'une certaine façon. Les personnages eux-mêmes aussi se sont complexifiés, autant du point de vue des joueurs que des personnages non-joueurs à l'intérieur. Donc j'ai plus d'options. De mon côté, je peux faire un personnage un peu comme je veux versus, par exemple, la philosophie Tomb of Horror, où tu avais une liste de... Et ça va être les quatre personnages que tu vas jouer aujourd'hui. Tandis que à l'inverse complètement, soit dans Tomb of Horror 2017, dans Tales of the Yawning Portal, ou le Curse of Thrad, où tu peux jouer un peu le personnage que tu veux. Un peu la même chose, faire les personnages non-joueurs principaux, où Strahd à l'origine était un peu le méchant de l'histoire, qui avait des motivations assez restreintes d'une certaine façon, tandis que maintenant a une espèce de tableau de buts, objectifs un peu plus larges, qui sont directement en fait pris avec les joueurs, donc qui expliquent un peu pourquoi il ne fait pas simplement les écraser parce qu'ils font du trouble. Donc on comprend un peu à quoi il veut en venir du point de vue du maître de jeu, en fait. La compétition, ben en fait, elle a été créée alentour de Tomb of Horror. On l'avait mis de côté dans le temps de Ravenloft, d'une certaine façon, mis à part le fait que les défis étaient importants. Tandis qu'aujourd'hui, on est complètement de l'autre côté du point de vue Ravenloft, où on n'est plus dans la compétition du tout, on est dans la co-création narrative full pin. Mais là, on tombe un peu dans la communauté de joueurs lorsqu'on revient à Tomb of Horror, c'est-à-dire, dans le fond, oui, maintenant la compétition n'existe plus de base, on voit le jeu comme étant un jeu coopératif, mais la communauté de joueurs fait revivre par pure nostalgie un peu cette façon de jouer qui est un peu disparue avec la disparition des wargames ou de l'influence wargame sur le jeu. Un peu la même chose d'ailleurs, on parlait d'Adventure Path à la Ravenloft, où aujourd'hui la communauté de joueurs a une influence directe sur ces longues aventures-là, où on nous explique que, ah oui, dans tel chapitre, par exemple, il y a des documents en ligne qui sont des aides de jeu, qui nous suggèrent des modifications, même de temps en temps, qui nous suggèrent des... vous devriez les faire passer par là avant ce bout-là, vous pouvez le sauter si vous voulez sauver du temps, vous pouvez changer l'importance de ci ou de ça. Il y a même des aides qui suggèrent des meilleures façons de gérer, parce que les cartes de Taroka que Vincent a discuté nous dit où sont les objets qui sont, en fait, où sont les quests principales à l'intérieur de la carte. Et là, il y a des aides qui nous disent, si vous voulez, au lieu d'avoir cette expérience complètement interactive et rejouable, ben, si vous voulez que ça s'incarne mieux à l'intérieur d'une narration cohérente, ben, vous devriez mettre tel objet là. Donc, ça va distribuer un peu l'aventure sur tout la grande carte là, qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on est vraiment... ces deux modules-là montrent à quel point, dans le fond, le jeu a définitivement évolué, mais en même temps, reste un peu à la merci de ce qu'on veut en faire d'une certaine façon. Il y a encore moyen de jouer comme avant, il y a moyen maintenant de jouer de façon complètement différente à tous les niveaux, autant du joueur, de l'arbitre que du designer. On est dans une espèce de logique d'adaptation par rapport à ce qu'on veut faire finalement. Je pense que c'est terminé.
Yep.
Voilà.
Merci.